Si vous êtes victime ou témoin d'un acte LGBT-phobe, vous pouvez contacter l'association SOS Homophobie au 01 48 06 42 41 ou sur leur site internet sos-homophobie.org. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Pour les personnes sensibles, je préfère vous prévenir en amont dans cet épisode. Il sera question d'agression, de violence, de viol, voire de meurtre.
Visible.
C'est parti.
Je discutais sur une application avec un jeune homme. On s'est dit que on allait se rencontrer. Au moment où je suis sorti de ma voiture, j'avais trois personnes qui m'attendaient. Et on m'a roué de coups.
Je me suis retrouvé donc encerclé par des individus qui me frappaient le visage à coups de pied et à coups de poing.
Franchement, tu vas voir, franchement, tu vas kiffer avec moi, franchement.
Arrêtez-moi, tu flippes, hein.
Il me filmait pendant que son collègue est en train de me tabasser. Dis que tu es PD, dès que tu es PD.
Quand on imagine le casseur de PD, on pense à un skin néo-nazi avec des tracts homophobes sur lui. En fait, il faut penser l'homophobie et la gayphobie comme quelque chose de beaucoup plus transversal, de beaucoup plus banalisé.
Nous avons recensé au moins 300 victimes de guet-apens depuis 5 ans. Plus d'une par semaine.
J'ai La Rochelle, j'ai Montpellier, Montreuil, l'Oise, Paris, le Rhône. Globalement, ce type d'agressions ont lieu un peu partout sur le territoire national.
Quand on a commencé à rentrer dans le détail de la plainte, moi, j'arrêtais pas de leur dire qu'il y a un caractère homophobe. Et eux, catégoriquement, non, c'est pas homophobe.
Parfois, on a la sensation que certains juges, en fait, se fichent de cette circonstance aggravante. Et là, c'est rageant.
Moi, je dirais que la justice fait pas du tout attention aux victimes. C'est parce que je suis gay que j'ai été poignardé.
On a vu deux homosexuels en plein acte et on les a tapés.
Ce qu'on a vécu, nous, c'est de la négation de notre humanité.
On vient de l'entendre dans la bande-annonce, cet épisode est consacré au documentaire Guet-apens, des crimes invisibles. Et pour en parler, je reçois un des co-réalisateurs. Bonjour Mathieu Magnodex.
Bonjour.
Merci d'être au micro de Visible pour présenter ton film.
Ça me fait très plaisir d'être là.
C'est un film co-réalisé avec Sarah Brett, David Perrotin pour une production Mediapart. Guet-apens, des crimes invisibles, tout est dans le titre. Qu'est-ce qu'un guet-apens ?
Un guet-apens, c'est une modalité des nombreuses modalités d'agression contre les personnes LGBT. Il s'agit d'un piège. En gros, on a retenu dans la définition des guet-apens, on en parlera plus tard, parce qu'on a fait aussi une petite comptabilité, enfin tenté de compter ces guet-apens depuis 5 ans. C'est un piège destiné quand même à voilà, il y a une petite organisation, il y a une préméditation pour s'en prendre à une personne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire en voulant soit directement cibler une personne gay, soit en voulant parfois voler ou extorquer une personne gay en pensant que cette personne sera plus naïve, plus fragile que les autres. En tout cas, là, évidemment, on parle de préjugés des gens qui organisent ces pièges. Et c'est ça qu'on a essayé de documenter, puisque ça faisait quelques temps que nous avions l'impression que ce genre de choses ressortait un petit peu. Nous avons eu des alertes à Mediapart sur des cas comme ça. Sarah Brett, avec qui j'ai fait ce documentaire, avait, elle, suivi quelques affaires de cet ordre quand elle travaillait dans une rédaction précédente autre que Mediapart. Et puis, on a creusé, on a contacté des avocats qui travaillent sur des sujets liés à l'homophobie, qui nous ont dit j'ai pas mal de dossiers, regardez-les. Et puis, on a essayé ensuite de rechercher dans la presse quotidienne régionale, notamment depuis 5 ans, ce qu'il y avait comme guet-apens, comme piège. Alors, parfois, évidemment, on ne retrouve pas, et ce n'est pas Google guet-apens, hein. Il faut essayer de creuser un petit peu et de trouver en fait voilà ces agressions qui sont encore une fois une partie des agressions contre les personnes LGBT. Ces guet-apens, ils ciblent plus particulièrement des hommes cisgenres, gays ou bisexuels. Il y a aussi des personnes trans qui sont concernées, souvent en relation avec le travail du sexe, sur des lieux de travail du sexe, où elles peuvent être piégées de la même façon pour de l'argent, par exemple. Et parfois, il y a eu, des meurtres aussi en appartement. On a un cas de guet-apens lesbophobe qui s'exerce dans le cadre familial. Donc là, ça nous dit quelque chose aussi. C'est-à-dire que ce sont c'est en lien avec la façon dont souvent les violences sexuelles ou les violences sexistes contre les femmes sont exercées dans un cadre de l'entourage de la famille.
Qu'est-ce qui a été le point de départ de l'enquête ?
Le point de départ de l'enquête, c'est ça. C'est cette impression que de toutes parts nous arrivaient des signaux nous disant qu'il y en avait peut-être pas plus. Ce qu'on essaye plutôt de raconter dans le documentaire, c'est que c'est une vieille histoire, c'est guet-apens, mais qu'on voyait que ça existait toujours, que ça perdurait. Et donc, ce qui nous a frappé, c'est ce paradoxe entre le sentiment que quand même si ça a été difficile ces dernières années, et ça continue d'être difficile avec vraiment maintenant un ciblage des personnes LGBT par l'extrême droite, notamment dans ses discours politiques contre la transidentité, autour des personnes séropositives, ça continue. Qu'il y a eu quand même des progrès. Il y a eu le mariage des couples de même sexe. Alors, c'est sûr, acquis avec énormément de difficultés et presque pratiquement contre l'avis d'une partie du gouvernement de François Hollande. La PMA pour les couples de femmes, là encore, un très, très long parcours, très compliqué et très humiliant, finalement, pour pas seulement les lesbiennes, pour nous tous, en fait, en réalité. Et puis, plus de visibilité aussi, quand même, ces dernières années. Et donc, nous, c'est ce paradoxe, finalement, entre très difficilement une conquête de nouveaux droits et puis la persistance d'une homophobie viscérale et qui n'est pas juste une haine des homosexuels, qui parfois, et c'est encore plus difficile de l'imaginer, repose sur de véritables préjugés envers les gays notamment, qui sont à mettre en lien avec les préjugés qu'on peut avoir parfois, que certains peuvent avoir sur la communauté chinoise, sur
les juifs,
les juifs, etc. C'est voilà cette idée que on peut les cibler plus facilement.
Oui, une sorte de haine ordinaire en fait. Et du coup, cette forme du film documentaire, à quel moment vous êtes passé de l'enquête? Parce que Mediapart, globalement, c'est beaucoup d'écrits à la base. Et à quel moment vous avez dit, bah, en fait, c'est un doc, ça prend cette forme-là?
C'est venu assez naturellement parce qu'au début, ça devait être un article sur Mediapart, une enquête sur Mediapart. Et puis, on a accumulé plein d'histoires, plein de dossiers. On a plongé dans plein de dossiers. Et au fur et à mesure, ça devenait presque trop grand, trop massif, avec plein de choses évidemment qui jouent au niveau de bien sûr de la violence homophobe, mais surtout du trauma pour les victimes, etc. Et ça nous a paru peut-être nécessaire, et avec cette idée que peut-être qu'il y aurait plus d'impact de le mettre dans un documentaire, parce qu'il y a énormément de choses que tout ça remue. Ça remue évidemment le trauma des victimes qui parfois perdure des années après, parce qu'il faut savoir que nombre de ces victimes en fait n'ont pas juste été violentées, parfois pire, elles ont aussi été tellement désarçonnées, tellement attaquées dans l'intimité, c'est-à-dire que quand on veut faire une rencontre sexuelle a priori, on ne vient pas pour se faire agresser, et que ça les a profondément meurtri, et que des années après, certains ont encore vraiment perdu leur travail, se retrouvent dans des situations financières compliquées. Donc ça, c'est le trauma, la conséquence de l'agression qui a un impact vraiment démultiplié sur la vie.
On le voit bien.
Ouais. Et puis ça noue plein de questions aussi sur la question des motivations de ceux qui organisent ces pièges. Ça, il y avait aussi cette question, mais on y reviendra, j'imagine, puisque sur 1h05 de documentaire, on montre en effet quelques images de ces agressions qu'on a obtenues, on y reviendra, avec l'accord évidemment des personnes concernées, faut bien le dire, bien sûr c'est important, qui montrait aussi ce que c'est cette violence homophobe, sans sensationnalisme, sans se vautrer dedans, mais montrer de quoi on parle d'une certaine façon, même si c'est évidemment une toute petite partie du documentaire.
Alors tu le disais, c'est un film qui est aussi centré sur la parole des victimes, ce que je trouve très bien. Comment vous avez réussi à convaincre Kevin, Vincent, Zach et Frédéric de témoigner?
En fait, c'est compliqué parce qu'on raconte que c'est un phénomène largement invisible, parce que les victimes n'ont pas forcément envie de témoigner. Déjà, elles n'ont pas souvent envie de porter plainte, soit parce qu'elles craignent la réaction quand elles vont aller au commissariat du ou des policiers, soit parce qu'elles ne veulent pas qu'on sache quand elles vivent. Voilà, on ne parle pas que d'agressions qui se passent en plein cœur de Paris, ciblant des personnes totalement out dans leur vie. On parle d'agressions partout en France. Et donc, ils ne veulent pas que les gens sachent qu'ils sont un peu ou beaucoup homosexuels, ou pour une partie de leur vie, ou complètement pour toute leur vie. Et donc, c'était compliqué de faire un documentaire là-dessus, puisqu'on raconte une invisibilité. Donc, il fallait trouver, évidemment, des gens qui soient d'accord pour parler face à la caméra assez longtemps de ce qu'ils ont vécu et de l'impact que ça a eu dans leur vie. Et certains ont été d'accord quasiment dès le début. Certains, parce que pour un ou deux d'entre eux, leur affaire avait aussi été déjà médiatisée, donc ils avaient déjà pu s'exprimer dans les médias.
Notamment Kevin,
pour qui, on le sent, pour Zach Ostman aussi à Marseille, chaque prise de parole est aussi, enfin je ne veux pas du tout parler à leur place, mais aussi quelque chose qui permet d'en parler, d'en reparler, de donner à voir aussi au monde ce qu'ils ont vécu, alors qu'ils ont pu se sentir un peu oubliés pendant des années, puisque c'est souvent des longues traversées, finalement assez très difficiles, même si on peut être entouré, qu'on vit quand même globalement seul, enfin en tout cas on ressent beaucoup la solitude. Et puis il a fallu convaincre d'autres personnes, d'autres se sont laissés convaincre, et puis on a aussi constaté que beaucoup de gens qu'on a approchés, dont on avait pu avoir le contact parce que nous avons pu avoir certains dossiers judiciaires, étaient pas juste réticents à parler, étaient vraiment dans l'incapacité d'en parler. Pour eux, c'était impossible d'en parler.
Mais, impossible parce qu'ils sont victimes, ou impossible parce qu'ils ont honte d'être victimes, ou parce qu'ils ne sont pas vraiment out?
Pour un peu tout, impossible parce que c'était encore trop dur d'en parler. Ouais. Impossible parce que se montrer devant une caméra, ce serait d'une certaine façon dire oui, je suis homosexuel.
Ou et même victime.
Et victime, voilà, parce que c'est vrai que beaucoup de gens nous ont dit c'est pas juste une histoire d'homosexualité, c'est aussi s'afficher comme une victime, c'est compliqué. Hein, c'est ce qu'on a beaucoup entendu, parce que beaucoup de ces gens essayent aussi de mettre à distance les choses, et c'est bien normal. Surtout quand on est dans un schéma d'agression qui est on s'est fait piéger, finalement le résultat c'est quelques gratinures, quelques blessures et un vol de portefeuille, bah, la tendance naturelle, ça va être de dire j'ai pas été victime d'homophobie, j'ai pas été ciblé pour ce que je suis, mais je suis victime d'une extorsion finalement basique qui s'applique à moi. Et ils ont trouvé la façon la plus évidente pour eux, c'était d'aller sur une appli de rencontre, par exemple, pour piéger des gays. Et on peut tout à fait comprendre finalement.
Il y a un témoignage comme ça qui est flouté d'ailleurs.
Oui, exactement.
Plus ou moins ça, pour lui, c'est pas vraiment homophobe.
Oui, alors en fait, alors que des paroles homophobes ont été prononcées. Et ça, on l'a retrouvé assez souvent. Puis il y avait des gens qui étaient dans l'impossibilité vraiment de même envisager, par exemple, un entretien anonyme dans le noir complet, où on aurait vu qu'une partie, la silhouette, par exemple, ça, même pour eux, c'était impossible. Donc c'est tout qui se mêle à la fois.
Alors, tu en as parlé aussi tout à l'heure, à un moment dans le film. Vous diffusez deux vidéos de surveillance des agressions, celle de Kevin, celle de Frédéric. C'est très violent. Est-ce qu'il y a eu débat entre vous pour les diffuser ou pas?
Oui, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, et on s'est dit voilà, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est nécessaire? Encore une fois, c'est une toute petite partie du documentaire, mais évidemment c'est saisissant. Alors, je précise bien sûr pour ceux qui nous écoutent que le documentaire, il est dans toutes les communications qu'on fait sur Mediapart. Sur le documentaire, il y a un trigger warning disant que ce film aborde et montre des scènes de violence, et le film est aussi précédé de ça. Donc voilà, on peut faire le choix aussi de ne pas le regarder. Et c'est quelque chose qui me paraît compréhensible. Donc, on s'est beaucoup posé la question, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles on l'a fait. C'est-à-dire que dans les deux cas, l'agression de Kevin à Drancy en 2019, qui a été laissé pour mort, une tentative de meurtre, et dans le cas de Frédéric aux Tuileries, agressé lui aussi en 2019 dans le parc des Tuileries, qui est un lieu de rencontre sexuelle très connu à Paris, ces vidéos sont des preuves, en tout cas pouvaient être des preuves. C'est-à-dire, dans le cas de Kevin, c'est ça qui a permis de matérialiser l'agression et l'agression homophobe. Et dans le cas de Frédéric, ce sont des vidéos que les policiers n'ont pas voulu voir. Mmh. Et il a dû réclamer ces vidéos de surveillance au Louvre, qui les a transmis à la justice, mais malgré ça, c'était trop tard, puisqu'on était parti dans une agression simple. En tout cas, la police et la justice étaient partis sur le diagnostic d'une agression simple.
Et donc, parce que quand il y a homophobe, c'est une circonstance
aggravante. Voilà. Depuis maintenant 20 ans dans le code pénal. On pourra revenir d'ailleurs sur cette histoire de circonstances aggravantes, c'est intéressant. Et donc, premier choix, ce sont des preuves. Et deuxième raison, évidemment, ça montre la réalité de ces violences. C'est-à-dire que l'entendre de la part des victimes, évidemment, c'est nécessaire et très fort. Le voir acte d'une certaine façon la persistance de cette violence. Et donc, encore une fois, notre choix, il a été de ne pas se vautrer dedans, de ne pas faire tout un documentaire sur regarder ces violences, etc. Mais ça nous paraissait nécessaire de finalement documenter un phénomène en images. C'est aussi montrer de façon raisonnée et raisonnable, on l'espère, ces images.
Mmh. Et alors, du coup, dans l'enquête, vous recensez jusqu'à 300 victimes en 4 ans.
300 victimes de guet-apens en 5 ans.
En 5 ans,
oui.
C'est une victime par semaine.
C'est une victime par semaine et c'est une victime tous les 3 jours en 2022. Alors, sans qu'on puisse vraiment exactement comprendre pourquoi. Peut-être parce que les médias s'y intéressent davantage. Mmh. Peut-être parce que quand il y a un fait divers, et je mets ça avec des guillemets, évidemment, qui est signalé à une rédaction locale par la police ou la gendarmerie, peut-être qu'ils font un peu plus attention maintenant sur les modalités de cette agression. C'est peut-être pas juste quelque chose à balayer tout de suite ou à considérer comme un fait divers. Et ils regardent, peut-être qu'ils mettent plus les mots aussi sur les phénomènes. Et donc, c'est aussi le signal que là, il y a quelque chose qui est en train d'être repéré par les médias, ouais. Sans qu'on puisse dire pour autant que ça augmente forcément. Mais donc, 300 en 5 ans, et on sait évidemment, puisque peu de victimes portent plainte, puisque beaucoup ne reportent pas les violences qu'ils ont subies, que c'est probablement plus. C'est ce que nous ont dit beaucoup d'enquêteurs, de police notamment, avec qui on a pu être en contact dans le cadre de ces enquêtes, de façon informelle évidemment, qui nous disent que de toute façon, le chiffre qu'on a trouvé, et c'est là vraiment le sommet très émergé d'un iceberg énorme.
Et alors, dans le film, il y a aussi, vous donnez la parole aussi à deux agresseurs. Alors moi, ce qui m'a un peu fasciné, c'est que les victimes, sauf une, mais la plupart, en fait, témoignent à visage découvert, pas les agresseurs.
L'idée était, oui, c'est tout à fait... Alors, pour les victimes qui témoignent à visage découvert ou pas, ça, on leur a demandé. Hein. Par exemple, dans le cas de Pierre, il ne s'appelle pas Pierre. Il vit près de Paris. Et Pierre est quelqu'un qui a 70 ans, qui a sa vie Paris, très, très out, avec ses amis, avec ses proches à Paris. Et puis, pas dans son village, dans un village...
Oui, ça s'entend totalement.
Dans un coin de la France, voilà. Donc ça, c'était le choix pour les victimes, en fait. On leur a demandé. Et puis pour les agresseurs, on leur a demandé aussi, puisque les agresseurs, ce sont des personnes en fait, en réalité, et que voilà, et que donc du coup, leur choix, et on peut aussi comprendre ce choix pour des gens qui en plus ont été condamnés pour des choses, qu'il n'y ait pas une sorte de double condamnation à apparaître médiatique d'une certaine façon, à réapparaître et à les afficher, ce qui pourrait les empêcher de, je sais pas, de vivre leur vie ensuite après.
Mais ça dit un truc, je trouve. C'est ce que tu entends parler un petit peu tout à l'heure. Ça dit que, et on le voit vraiment dans le film, on voit notamment Kevin, il le dit, lui, il est victime, et il va être victime longtemps, pendant très longtemps. Il va être marqué pendant très longtemps. Les agresseurs, ils sont marqués le temps de leur peine. Et du coup, les voir à visage découvert, moi, je me suis dit, mais en fait, ils n'assument pas, quoi. Il y a un repenti, plus ou moins, mais ils pourraient assumer, en fait. Parce que la victime, en fait, on les voit, enfin, ils sont tous quand même pas brisés, mais enfin, c'est compliqué pour eux. Mais
ouais, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'espace le plus occupé dans le documentaire, si je puis dire, cette phrase n'est pas correcte, mais c'est pour ça que le temps consacré finalement aux victimes est très important dans ce documentaire, parce que c'est eux, c'est leur parole qu'on veut centrer. On a fait parler deux personnes qui sont assez différentes en réalité. Un a été un des meneurs d'agression à Besançon en 2018. et dans le repentir d'une certaine façon et dit en fait j'ai 19 ans aujourd'hui, j'avais 15 ans à l'époque, oui j'assume, j'ai mené tout ça avec d'autres et c'est absurde, qui étais-je à ce moment-là pour faire ça, et je pense que cette parole elle s'accueille d'une certaine façon, sans excuser finalement, mais comprend que finalement c'était une impasse pour les victimes bien sûr, mais pour lui aussi. Et puis la deuxième personne, il a participé au moins à une agression. Son rôle clair est encore à évaluer, voilà. Et lui, ça nous a surpris parce que moi, j'avais très peu d'attentes en faisant cet entretien avec lui. Je pensais que on serait dans un discours un peu classique de bon bah voilà, c'était pas bien, voilà. Et finalement, on a parlé un peu, et au bout d'un moment, ce que vous entendez dans le documentaire, cette espèce de discours sur la facilité d'agresser des gays parce qu'ils sont fragiles, naïfs, vulnérables, qui est finalement l'expression assez presque neutre, quoi, d'une forme de mode opératoire, apparaît. Et je tiens à préciser qu'on n'a pas couper ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment ce qu'il nous a dit à ce moment-là, et ça m'a surpris. Moi, c'est moi qui ai fait l'interview avec mes camarades Valentine et Bérénice qui étaient à côté, et c'était très glaçant. Et je me rappelle qu'en tant que je suis gay et en tant que j'étais à 2 mètres de lui, et
comment tu réagis dans ces
entendre galères, je sais pas, j'ai encore un peu des frissons parce qu'en fait il y a beaucoup de choses mêlées, c'est-à-dire que ça reste un gamin, en fait, quoi. Ça reste un gamin de 19 ans qui se trouve avoir été pris dans une agression comme ça, qui dit des choses comme ça qui me foutent les frissons totalement. C'est-à-dire, encore là, quand je vous parle, j'ai les frissons, en fait. Et dès que j'ai revu cette scène dans le documentaire, quand j'étais au banc de montage, à chaque fois que je la voyais, j'étais sidéré et pétrifié. Voilà, c'est assez dur, même pour moi, d'en parler. Et ça reste quelqu'un qui est très jeune, qui a potentiellement plein de choses à faire dans la vie, en réalité, et dont j'espère que voilà, quelqu'un, quelque part, lui dira un jour que c'est pas possible, en fait. Et donc, c'est des sentiments très, très mélangés qui vous passent par la tête quand vous faites ça. Et puis, on a aussi des vidéos d'une autre personne qui organisait des pièges partout en France le réseau Periscope, qui n'existe plus. Je ne suis pas sûr qu'on ait à s'en plaindre. C'est-à-dire qu'il organisait des sortes de guet-apens dans toute la France, une sorte de multi-diffusion de pièges sur le réseau Periscope avec quelques complices qui allaient piéger des homosexuels partout en France. Ils leur jetaient de l'eau de Javel, de l'urine, des excréments.
On les filmait en direct.
Il les filmait en direct, en fait, ses complices, ses caméramans, comme il les appelait, parce que c'est vraiment une sorte d'équipe de production qu'il animait, allait les piéger sur différents lieux, se filmait, et du coup, lui, les retransmettait les images de ses agressions sur sa chaîne Periscope.
Oui, et lui voulait absolument un jour passer chez Hanouna. Ça dit beaucoup de choses.
Et du coup, en fait, là, c'est intéressant comme temporalité, c'est-à-dire que le vrai faux canular de Cyril Hanouna contre un gay, là, dans son émission en 2017, je crois, je ne veux pas dire de bêtises.
Ouais. Il en dit plus, donc.
Voilà, c'était avant, juste avant, 6 mois ou 1 an avant ces agressions-là. Donc voilà, ça pose des questions forcément.
Ça pose beaucoup de questions.
Ouais. Ouais, et en effet, on a retrouvé dans le dossier judiciaire une vidéo qui était probablement dans son ordinateur où il disait, voilà, où il exposait son plan média, son business plan, quoi, sur Periscope, en disant, je fais ça, j'ai plein de followers, et après, je passe à touche pas à mon poste.
C'est glaçant, enfin c'est affligeant, mais.
Mais là, c'est important parce que, en fait, en réalité, c'est pour ça que. Comment dire Nous sommes entourés. En fait, je pense qu'il faut parler de système en réalité. Pas tout mettre sur le dos de ces deux garçons qui parlent dans notre documentaire et qui, encore une fois, je le redis, on espère qu'ils n'auront pas ces idées en tête toute leur vie. C'est vraiment un système, c'est-à-dire que quand toute la journée, Nous avons, on a parfois des canulars homophobes à la télévision quand on a une ancienne ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron qui a été à la manif pour tous, de même que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin
qui
d'ailleurs,
parlait de nous en disant
voilà,
ces gens-là,
qui ont défilé avec la manif pour tous et qui dit en disant ces gens-là, quand vous avez, êtes entouré d'une homophobie régulière dans les stades de foot où la meilleure façon de désigner l'adversaire, c'est dire que on connaît les mots, donc. Comment s'étonner finalement que des jeunes personnes qui peut-être voilà sont pas dans les meilleures dispositions pour faire d'énormes carrières dans la vie ou voilà ou sont nés peut-être au mauvais endroit ou j'en sais rien n'absorbent pas finalement quand même beaucoup de ce qui circule. Donc en fait notre documentaire il est aussi pour dire nous avons tous une responsabilité collectivement sur le fait que on arrête de banaliser l'homophobie au quotidien parce que ça commence dans nos cercles, ça commence dans nos familles, ça commence dans les clubs de sport qu'on fréquente, ça commence y compris même dans la façon dont s'organise la construction de la masculinité et la sociabilité entre hommes. C'est-à-dire que nous avons dans le documentaire Sébastien Chauvin, qui est un sociologue spécialiste de l'homophobie, qui est professeur à Lausanne, qui le dit très bien quand il écrit des textes là-dessus, l'homophobie, finalement, l'idée de désigner l'autre comme pédé, c'est désigner le garçon qui, dans le groupe, ne correspond pas aux standards de la masculinité telle qu'ils se l'imaginent alors qu'ils ont 7 ans ou 10 ans ou 15 ans. Et ça continue après, dans la vie, en réalité. Ce n'est pas juste les enfants et les ados, c'est partout, tout le temps.
C'est partout, tout le temps, et c'est tout ce qui est féminin et suspicieux.
Exactement.
Et on va en parler le mois prochain avec Daisy Le Tourneur. C'est une petite auto-promo. Je voudrais revenir au film. C'est un éventail complet autour des agressions. Il y a des victimes, des agresseurs. On parle de justice et de police. Vous montrez très bien les manquements de la justice, une justice qui a du mal à condamner l'homophobie. Il y a le porte-parole du parquet qui m'a fait un peu bugger personnellement.
Oui, pourquoi ?
Parce qu'à un moment, il dit oui, on va trouver une circonstance aggravante autre pour la même peine, sans soucier de la victime. Qui, je pense que c'est important de dire que telle agression est homophobe plutôt que de dire on va trouver une autre circonstance plus facile à prouver. Faut peut-être se battre davantage, j'ai l'impression, pour prouver l'homophobie. Est-ce que tu as réussi à comprendre pourquoi la justice a du mal à qualifier l'homophobie ?
D'ailleurs, le procureur reconnaît lui-même que c'est parfois quelque chose qui peut donner au sentiment aux victimes qu'elles ne sont pas reconnues en tant que victimes d'agressions homophobes. Et donc, lui-même dit bien qu'il a bien conscience, finalement, que ça n'est pas toujours satisfaisant pour les victimes. Alors, pourquoi la justice peine à qualifier l'homophobie ? Je dirais pour plein de raisons. Pour plein de raisons en réalité, c'est-à-dire que, par exemple, mettons le cas d'un guet-apens, ça se passe dans un endroit, par exemple, au domicile. Et encore heureusement, tout le monde n'est pas équipé de vidéos de surveillance dans son domicile. Donc souvent, les preuves manquent. Et quand une victime va dire « j'ai été victime d'agression et d'insultes homophobes à mon domicile », et si l'agresseur dit ben « non, moi j'ai rien fait, j'y étais pas », etc., et qu'on peut pas retrouver de traces, c'est un peu parole contre parole. Ce qu'on constate, c'est que probablement que si la justice pouvait se laisser un peu plus de temps pour faire émerger, se donner une chance en tout cas de poser des questions, peut-être qu'on pourrait parfois faire apparaître ce caractère homophobe dans les procédures. Mais on retombe aussi sur des problèmes structurels de la justice qui rejoignent ceux de tous les services publics, c'est-à-dire que ça va vite, parfois les enquêtes elles prennent le temps qu'on a après une agression, qu'on arrive à un procès, ça peut être parfois 3, 4, 5 ans. Et donc voilà, la justice, elle est submergée aussi d'une certaine façon. C'est pas du tout pour excuser, hein, en réalité. Je pense qu'il y a aussi des choses qui se jouent. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des pratiques différentes. Et ça, finalement, on le voit bien dans le documentaire. C'est-à-dire que on sait que, par exemple, prenons un exemple concret, quand des hommes gays sont ciblés sur des applications de rencontres ou des sites Dans le cadre de cette enquête, de ce documentaire, on a pu croiser évidemment Grindr, les pompeurs, toutes sortes de sites et d'applis, Coco évidemment,
oui, qui alors, est un site
que moi non plus je ne connaissais pas, qui est un site très anonyme et fréquenté par beaucoup de gens qui plutôt cherchent des rencontres assez cachées. Mm. Et donc qui est assez utilisé en région, qui est assez utilisé, peut-être moi non plus, je ne connaissais pas. Et donc on croise ces sites-là. Mais par exemple, on voit bien que parfois, quand des hommes sont ciblés sur une appli gay type Grindr, la justice parfois commence à dire bon, ok, là ça veut dire qu'on a une petite série, ça veut dire qu'on cible des gens pour ce qu'ils sont sur quelque chose qui est identifié comme une application gay. Et puis, des fois, non. Et parfois, non. Donc, peut-être qu'il y a des standards un petit peu, des circulaires qui doivent être faits pour un peu préciser dans quel cas, pour préciser aux magistrats dans quel cas on peut parler d'un acte homophobe. Voilà, la loi, elle est assez générale sur la circonstance aggravante et peut-être qu'il faudrait un peu la préciser pour donner aussi la main aux procureurs, aux juges qui ne sont pas forcément...
Derrière.
Voilà, mais c'est aussi, je pense, une grande méconnaissance pour certains acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ne pas forcément connaître les modalités d'exercice de la sexualité gay, le fait qu'il y a beaucoup de rencontres sur des applis, de savoir comment ça marche, etc. Voilà.
Mais ça participe aussi à une homophobie ordinaire, je trouve, non ? C'est le débat, mais...
Bah, ça participe à une méconnaissance, ça c'est sûr, et à une difficulté d'appréhender finalement la façon dont les choses s'organisent. Et on a pu croiser aussi, dans le cadre de notre enquête, plein de magistrats qui se sont parfois battus dans le cadre de certaines procédures pour faire émerger le caractère homophobe de l'acte. Et moi je dis que c'est très important, notre documentaire, on tourne beaucoup autour de cette idée de l'aspect judiciaire, etc., parce que ça nous paraît important. Mais l'idée n'est pas de dire, avec cette idée de circonstance aggravante, la circonstance aggravante, c'est fait pour aggraver les peines. Si vous avez fait un vol, mais si c'est un vol avec une circonstance aggravante d'homophobie, ou si vous avez fait une agression, une tentative de meurtre, il y a une peine en plus dans le cas de l'homophobie. L'idée, notre idée dans le documentaire, c'est pas de dire faut mettre tout le monde en prison et faut aggraver systématiquement les peines. L'idée, c'est de dire aujourd'hui, on a des procédures où parfois, quand les parquets vont avoir le sentiment qu'ils ne peuvent pas forcément apporter la preuve de l'homophobie, peut-être aussi parce qu'ils ne s'en donnent pas toujours les moyens, alors ils vont trouver dans le dossier tout ce qui permet de faire condamner la personne, mais ne pas mettre cette circonstance aggravante d'homophobie. Et peut-être que là, il y a quand même des procédures à changer pour faire en sorte que les victimes, quand elles sortent d'un procès comme ça, qui est complètement éprouvant, c'est-à-dire retrouver ses agresseurs des années après dans une salle d'audience, c'est quand même pas agréable, et quand même le sentiment à la fin que leurs agresseurs ont été jugés pour ce qu'ils ont fait. Je dis quand elles le veulent, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément que l'homophobie soit condamnée et qui vont se dire non, pour moi c'était simplement une agression et voilà, je ne veux plus en entendre parler. Mais que que les victimes puissent avoir le sentiment d'être entendues. On parle beaucoup en ce moment, c'est autre chose, mais bien sûr de justice réparatrice. La justice, si elle pouvait aussi réparer et réparer les victimes, ce serait bien. Et si elle pouvait aussi s'inscrire avec d'autres institutions dans aussi des mécanismes de prévention de cette homophobie du quotidien, ce serait bien aussi.
Oui, c'est un travail global. Et alors, vous le montrez bien dans le film, avec une justice qui parfois ne voit pas ou voit mal, et aussi parfois une police qui n'écoute pas. Notamment, je parle du cas de Frédéric. Alors, on ne va pas raconter tout le film, c'est pas le but. Le but, c'est que les gens le voient. Mais il est agressé aux Tuileries. Il va porter plainte dans le commissariat qui est dans le Marais, quartier gay de Paris. On ne l'écoute pas. Et il va se battre seul. Tout au long du documentaire, moi, je trouve qu'il y a des manquements au niveau de la justice et de la police. Et surtout, il y a trois gros absents majeurs à mes yeux. Monsieur Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur. Et Madame Lenvis-Rome, ministre de l'Égalité, Femmes, Hommes et de la Diversité. Ces personnes, pourquoi elles n'apparaissent pas dans le film ?
Nous avons fait des demandes à tous les trois. Gérald Darmanin, son cabinet, n'a pas accusé réception de notre demande. Le cabinet d'Éric Dupond-Moretti, sachant que la justice fait de la lutte contre l'homophobie une des priorités de la politique pénale, hein, sur le papier, nous a répondu en disant « oui, c'est important, on va essayer » et on n'a pas eu de réponse. Un peu pareil du côté d'Isabelle Lonvis-Rom, où on nous a dit « oui, voilà, on va y arriver » et puis finalement, ça ne s'est pas fait. On n'y est pas arrivé, on n'a pas eu de date qui a été fixée. Il se trouve que nous, à Mediapart, on travaille souvent sur des sujets qui concernent Isabelle Lonvis-Rom, donc il a dû arriver qu'on les solliciter peut-être au même moment sur 2-3 sujets différents, mais oui, mais c'est aussi parce qu'on a des curiosités, donc peut-être que c'est pour ça que ça ne s'est pas fait. En tout cas, ils ne sont pas dans le documentaire et on le regrette, on le déplore, et on peut remarquer que je ne sais pas du tout si c'est lié, mais en tout cas 24 heures après la publication de notre documentaire, eh bien Gérald Darmanin a dit oui, la police ne fait pas assez contre l'homophobie. Voilà, c'est peut-être aussi parce que le dit Gérald Darmanin voulait aussi solder à l'approche de l'anniversaire des 10 ans du couple de mariage de même sexe le fait qu'il avait été fermement opposé au mariage des couples de même sexe, qu'il avait défilé avec la manif pour tous, et comme il a quelques envies d'être Premier ministre ou plus tard, peut-être que c'était pour lui la bonne occasion de solder tout ça, pense-t-il.
Mathieu, je voulais te remercier, moi, pour ce film, remercier aussi Sarah Brett et David Perrotin. Il est parfois difficile à regarder, ce film, mais il est nécessaire. Vous posez des états des lieux sur les agressions gayphobes d'une violence incroyable et pourtant ordinaire. Surtout, vous replacez au centre de tout les victimes. On comprend qu'une victime l'est toute sa vie, les agresseurs, le temps de leur peine. Moi, ça m'a fait penser au travail de Lorraine Descartes, grande reporter sur les féminicides, qui a sorti un excellent livre, Nos absentes, que je conseille fortement. Elle sort les affaires des féminicides, des faits divers. Et avec votre film, j'ai le sentiment que vous voulez faire la même chose. Est-ce que c'est votre volonté ?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a un parallèle entre les violences faites aux femmes et ce qu'on décrit dans ce documentaire, les violences LGBT-phobes, et là, qui concerne, vu ce cas particulier des guet-apens, plutôt des hommes cisgenres, gays ou bisexuels. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a eu tout un travail de journalistes, comme Lorraine Descartes, mais aussi d'organisations, de militantes, qui, au bout d'un moment, ont dit « arrêtons de... » Quand il y a un féminicide, arrêtons de dire c'est un fait divers, un crime passionnel, un accident malheureux. Voilà. En fait, disons le mot, c'est un féminicide. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que dans la presse locale, y compris, qui peut-être il y a certaines années ne faisait pas ça, et encore une fois, il y a d'excellents journalistes dans la presse régionale, donc ne mettons pas non plus tout le monde dans le même sac. Maintenant, moi, je prends l'exemple de la Dordogne, où je suis récemment, j'étais chez mes parents, un féminicide dans une du journal local. Peut-être qu'il y a 10 ans, ça aurait pas été le même titre. Et donc, du coup, on peut compter maintenant les féminicides. Et donc, il y a une attention de la société. Et on a envie de dire, tant mieux. Et on a envie de dire aussi, mais pourquoi seulement maintenant ? Et donc, ce qui est étonnant, moi, je trouve, c'est que finalement, il y a une forme d'habituation à ces violences homophobes, quelles qu'elles soient. Et là, on va sortir juste des cas des guet-apens, c'est-à-dire des meurtres contre les personnes trans, des agressions lesbophobes, des insultes, y compris de la banalisation de tout ça dans la société. Et il y a une forme d'habitude. Ah ouais, ok, un homosexuel ou quelqu'un qui est tué sur un lieu de rencontre. Ok, très bien. Il y a encore des articles comme ça aujourd'hui. On voit encore des... Moi, j'étais frappé en regardant, en faisant cette sorte de comptabilité des guet-apens, si je puis dire. J'étais frappé de retrouver des articles de presse très elliptiques par moments qui racontent des choses odieuses, en fait, et atroces, de gens laissés pour morts, morts en réalité, sur un lieu de rencontre gay. Et je n'ai trouvé qu'un article sur cette affaire. Et je n'ai rien lu depuis sur cette affaire. Et c'est fascinant, en réalité. C'est le travail qu'avait fait en 2021 Mathieu Fouché sur son compte Twitter, en recensant les récents meurtres d'homosexuels dont quasiment personne n'avait parlé, avec juste un article ou deux, et personne n'a fait de suivi, et la presse n'avait pas fait de suivi.
Et il se mettait à la disposition.
Voilà. Donc, quelle est cette habitude que nous avons pris de banaliser totalement les violences contre les LGBT, comme si c'était normal ? En réalité, non, ce n'est pas normal. Et encore une fois de plus, dans un contexte où on voit bien en France aussi, où le Rassemblement National décide que maintenant le woke et la transidentité et les questions LGBT, c'est la nouvelle cible en Russie, aux États-Unis, partout dans le monde, au Brésil quand il y avait Bolsonaro, et partout dans le monde en réalité, les tous les sujets LGBT en général sont en train de devenir une cible, une façon de cliver la société, de mener une bataille culturelle conservatrice pour ces gens-là, parce qu'ils ne supportent pas cette idée de visibilité, que les gens fassent juste ce qu'ils veulent dans leur vie et puissent évoluer dans les espaces qu'ils choisissent comme ils le veulent. C'est quand même ça, en fait. C'est quand même ça, y compris quand on parle des guet-apens. C'est-à-dire, c'est genre, je peux vouloir rencontrer qui je veux et pouvoir m'éclater avec cette personne, pouvoir la rencontrer, que ça devienne la personne de ma vie ou la personne d'un soir, juste sans qu'on m'emmerde, pardon, en fait. Et en fait, c'est une bataille qui, à mon avis, ne concerne pas que les gays, que les lesbiennes, que les personnes trans. Ça concerne absolument tout le monde. Si on peut accepter de vivre dans une société où ces violences-là sont quotidiennes, pardon, mais
qui sera le prochain,
c'est pas intéressant. Ouais, ça m'intéresse pas de vivre dans cette société, en réalité.
Moi, ce que je trouve très intéressant dans votre film, et ce que Lorraine Descartes, elle fait sur les féminicides, c'est une femme. Avec David Perrotin, vous êtes out, vous êtes deux hommes gays. Vous prenez vraiment ce film. Ça me fait penser au bouquin d'Alice Coffin, Le génie lesbien, où à un moment, elle consacre tout un chapitre aux médias, où quand elle était dans les médias, elle était out en tant que lesbienne. On lui disait, ah non, mais t'es lesbienne, tu traites pas des sujets...
Tu es trop militante, oui.
Tu ne traites pas des sujets d'homosexualité.
Exactement.
Évidemment, moi, je pense l'inverse. Je pense qu'il faut, évidemment, un homme blanc, hétéro, un peu bourge, il n'aurait jamais fait votre documentaire. Après, c'est mon opinion. Est-ce que tu penses que toi, en tant que journaliste, le fait d'être journaliste gay, t'a permis de mieux traiter ce sujet ?
Alors, d'abord, il y a un truc intéressant. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé ces derniers jours entre nous, maintenant que le documentaire est fini, qu'il est diffusé et tout. C'est que celle qui est à l'origine, c'est une femme hétérosexuelle, oui. Sarah Brett.
Mais c'est une femme.
Voilà, c'est une femme. C'est une amie par ailleurs. On se connaît très bien, plus que très bien. On est amis depuis très longtemps. C'est une femme, donc qui d'ailleurs couvre les violences sexuelles à Mediapart et qui comprend très bien le parallèle dont on a parlé tout
totalement.
À l'heure. Voilà. Donc c'est elle qui a l'initiative. Donc et d'ailleurs on s'est posé la question avec David de pourquoi on n'avait pas forcément proposé ce sujet avant. Ça reste une interrogation, comme si on avait peut-être voulu, en tant que journaliste gay, s'intéresser à d'autres sujets ou traiter les discriminations, mais pas forcément les discriminations gayphobes, par exemple, en se disant ça nous concerne peut-être un peu trop, etc. Après, moi, là-dessus, ça fait plusieurs années que j'ai quand même une position assez claire. Moi, je fais partie, avec Alice Coffin d'ailleurs, que tu as cité, des fondateurs de l'association des journalistes LGBT qu'on a créée en 2013.
On va parler juste après.
Ouais, voilà, en fait, on l'a créée à ce moment-là, c'est né d'une colère, tout simplement, parce qu'on se rendait compte que exactement ce que tu racontais dans les rédactions des journalistes gays ou lesbiennes comme Alice étaient considérés comme des militants ou défendant une cause quand ils essayaient juste de parler du mariage et d'en parler d'une bonne façon, c'est-à-dire de ne pas juste laisser ce déferlement homophobe comme on l'avait vu dans les médias en 2013 se produire. On leur disait, vous êtes des militants, ça ne va pas, etc. Et puis aussi, l'autre colère, c'était de voir justement ce déferlement homophobe relayé. On se rappelle quand même des éditions spéciales de certaines chaînes d'infos où on avait tout ce qui comptait d'homophobes en France qui défilait pendant des heures pour dire des horreurs à la télé.
Devant des journalistes dans le placard. Devant on n'est pas journalistes. Ici pour faire des outings.
Donc moi, juste pour dire, j'ai une position assez claire. À ce moment-là, on a fait une tribune avec Alice encore et d'autres, et Lucas Armati, et David Béliard, et Alix Béranger, et d'autres, dans Le Monde, pour dire sortons du placard, pour dire en fait que tous les gens qui avaient un petit bout d'accès à la parole publique devaient dire simplement parfois qu'ils étaient gays ou lesbiennes ou trans, parce que c'était important de le dire pour des gens qui n'ont pas cet accès, même minimal, à la parole publique. Moi, j'ai une position assez claire qui est de dire, en fait, reprocher à un journaliste gay, par exemple, de couvrir des sujets liés aux questions LGBT, à la parentalité, à toutes les questions qui sont posées par nos vies LGBT, c'est comme reprocher à une personne qui est hétérosexuelle et mariée de traiter des sujets qui couvrent les enfants, la famille, l'école, parce que, ça la concerne aussi dans son quotidien. Et moi, je suis persuadé que, en l'occurrence, dans le cas du documentaire, le fait d'être gay, ou pour Sarah, le fait d'avoir déjà travaillé sur les violences sexuelles et d'avoir beaucoup travaillé sur les violences sexuelles et sur les questions du féminisme au sens large, fait que l'approche des victimes a été, je pense, tout simplement faite avec des mots justes, avec, pour nous, avec l'expérience de commune d'être gay, même si... on n'a probablement pas les mêmes vies ou la même voilà ou les mêmes orientations politiques avec certaines des victimes et voilà et donc ça permet de créer une confiance mais après c'est juste un début c'est juste un début parce qu'après si vous travaillez mal si vous faites n'importe quoi si vous les traitez mal bah, la confiance elle n'existe plus mais donc moi je pense qu'au contraire ça ajoute ça n'est pas voilà je pense que voilà dans notre documentaire peut-être que des gens diront c'est militant et je vais vous dire je m'en fous en fait
on s'en fout voilà. Moi il est là il est très bien fait et alors justement on va reparler de l'AJL comment ça s'est créé donc il y a eu cet appel il y a eu cette tribune et ensuite vous êtes fédéré assez rapidement en fait.
Bah, au début, ça commence à remonter, mais c'était vraiment cette colère au moment du mariage des couples de même sexe. Nous étions tous journalistes, tous dans des rédactions, tous voyant quelque chose d'assez infernal se produire autour de nous. En réalité, ce déferlement avec des journalistes considérant que c'était là un nouveau mouvement social qui émergeait et qui exprimait les attentes de la vraie France, quoi. Non, quoi, en fait. Donc, en fait, il y avait cette idée de dire attendez, là, c'est juste... vous faites piéger en fait par et surtout vous diffusez ou vous montrez ou vous relayez des propos qui sont profondément violents et insultants pour les personnes concernées, quelles qu'elles soient. Et donc, ça naît de ça. Et donc, on s'organise à quelques-uns, on discute. Au début, c'est vraiment des discussions de comptoir ou de bar ou de vendredi soir avec des amis. Et puis, on se dit, c'est plus possible. On commence à créer un truc. On trouve ce nom AJL. On a voulu le nom le plus bas possible, alors qu'on avait envisagé plein de titres beaucoup plus drôles, les rotatives, des choses comme ça. Enfin, bon, voilà. Mais justement pour faire sérieux quoi pour faire on est l'association des journalistes en fait. LGBT on est ensemble une association on est des journalistes et on est LGBT pour que les mots soient bien dits et puis on s'est organisé au début on était une trentaine et puis ça a grossi il y a eu cette cérémonie des outdoors qui récompense finalement la visibilité LGBTQI+ et voilà et on est tous d'accord que la visibilité c'est un des aspects des conquêtes qu'il faut gagner mais que c'est déjà pas mal aussi ça c'est déjà un premier pas et ça permet déjà de faire émerger de nouveaux visages, de nouvelles voix et que ça ne suffit largement pas, hein, qu'il y a d'autres combats très politiques aussi à mener par ailleurs.
Oui, vous proposez aussi beaucoup de kits en fait.
Des kits à destination des journalistes pour leur dire comment, pour les accompagner finalement, pour comment parler de nous d'une certaine façon. Comprendre que quand vous utilisez tel terme, bah, ça peut être un terme en fait insultant, vous pensez peut-être l'utiliser à bon escient, mais nous on vous dit que non.
Oui, c'est du contenu très pédagogique.
Voilà, et on peut vous aider à comprendre. Donc, vous pouvez retrouver les infos concernant la JLGBT sur le site de la JL, ajlgbt.info, si je ne me trompe pas, où il y a un kit à destination des journalistes qui est très souvent réactualisé parce qu'il y a aussi de nouvelles questions qui sont davantage posées par les journalistes, il y a de nouvelles problématiques et que, du coup, on essaye d'accompagner les journalistes.
Il y a aussi des analyses aussi.
Voilà, il y a souvent des analyses, notamment des analyses sur cette homophobie banale qui s'exprime dans certaines émissions parfois et donc on y a eu plusieurs fois des opérations de comptage finalement de comptage on regarde des émissions et on note les remarques homophobes les préjugés homophobes c'est assez intéressant parce que parfois c'est encore assez massif
totalement alors du coup on arrive un petit peu à la fin et je voudrais un peu continuer à parler de toi si tu veux
que veux-tu savoir sur moi.
T'as bien été correspondant aux États-Unis.
J'étais correspondant aux États-Unis.
Pendant combien de
temps ? Après l'élection de Donald Trump, je suis arrivé en septembre 2017. Donald Trump avait été élu 6 mois avant. Et je suis reparti au moment du Covid parce que j'étais seul dans mon appartement à New York. Je ne savais pas très bien combien de temps ça allait durer. Et j'ai pris quasiment le dernier vol commercial qui était encore pas cher, quoi, parce qu'après ça a monté très vite les prix, et je pense que j'ai eu une bonne idée, parce que du coup je suis rentré à Paris me confiner, et donc j'ai arrêté la campagne présidentielle qui était en cours aux États-Unis, c'est aussi arrêté, donc voilà, donc je suis rentré à ce moment-là, et c'est là que je suis arrivé à Mediapart, enfin je suis revenu à Mediapart confiné, qu'on a lancé l'émission vidéo de Mediapart, enfin voilà, une nouvelle aventure, plein de nouvelles aventures.
Et alors justement, aux États-Unis, ils ont une autre façon de faire du journalisme, justement, où ils ont des journalistes LGBT, out, qui prennent les sujets LGBT, et qui sont pris vraiment avec du sérieux en fait. Est-ce que toi, ça t'a amené en fait en les côtoyant, en les voyant, est-ce que ça t'a amené un autre regard sur la façon de faire ton métier ?
En fait, par rapport à justement cette conviction dont je te parlais tout à l'heure que j'ai que Stop, en fait. J'ai le droit de couvrir tous les sujets, y compris des sujets, bien sûr, pas du tout liés aux questions LGBT, mais y compris pleinement des sujets liés aux questions LGBT. Ça m'a conforté dans cette idée, tout simplement, parce qu'en réalité, il y a aux États-Unis des journalistes très connus qui sont out. Il y a des gens qui assument de parler selon leur point de vue, c'est-à-dire dont on sait qu'ils sont gays, qu'on sait qu'ils sont lesbiennes, et voilà. Et c'est, moi je trouve que c'est toujours bien en fait de dire d'où on parle.
Bah c'est une force.
Voilà, c'est une force. Ça vous assoit. Personne ne peut vous reprocher d'être, d'avoir des agendas cachés et tout ça. Moi je dis ce que je suis. Je suis journaliste à Mediapart. Je suis gay. Je suis de gauche. Mmh. Et donc ça ne me dérange pas de le dire en fait, ouais. En réalité. Voilà. Ensuite chacun se fait son avis, mais au moins on sait d'où je parle. Et ça me libère d'une certaine façon. Et après, quand je fais des enquêtes, quand je travaille sérieusement sur des sujets, quand je passe du temps à vérifier des informations et les recouper, et j'applique les standards journalistiques de base pour tout le monde, qui sont les standards journalistiques qu'on applique aussi à Mediapart. Donc ça ne me pose absolument aucun problème. Et franchement, c'est libératoire. Ça permet de vivre en fait, simplement dans tous les aspects de sa vie personnelle et professionnelle.
Et alors justement, j'ai une dernière question qui concerne les États-Unis, où là-bas, on attaque le droit des femmes, le droit des personnes LGBT. C'est une catastrophe en ce moment. L'avortement qui est en passe d'être interdit un peu partout, interdiction des spectacles de drag queens aux mineurs, enfin des drag queens, répression des enfants trans, répression des identités trans. Quel regard tu portes sur ce qui se passe là-bas et sur ce qui arrive en France, parce que Bilal Hassani est empêché de faire un concert.
Exactement.
Qu'on attaque aujourd'hui totalement les personnes trans en France. Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai glissement de haine importé des États-Unis?
Ce qui se passe aux États-Unis est consternant. C'est un déferlement conservateur qui se produit dans une partie des États-Unis, qui met en danger autant pour la question de l'avortement que la question des personnes trans ou des spectacles de drague, c'est-à-dire que pour les conservateurs américains, une personne trans, un show drague, tout ça c'est pareil en fait. Ils voient même pas la différence en fait. Ils ne voient pas la différence entre une performance, une vie, une identité, une transition. Enfin, je veux dire, ils sont complètement évidemment ils sont pas éduqués, mais surtout ils font exprès de pas voir en fait en réalité. Mais ça met en danger dans ces états notamment du sud américain ou du Midwest, ça met en danger des vies, en fait. Ça met en danger des vies de femmes qui souhaitent avorter et qui ne peuvent pas. Ça met en danger les vies des personnes LGBT qui sont directement ciblées. Ça met en danger des enfants parce qu'on ne fait que parler des enfants LGBT dans certains états. Et du coup, si vous êtes un enfant ou un jeune ado qui sent qu'il est peut-être homosexuel, bah, vous allez être tétanisé par ses propos publics. Si vous grandissez dans une famille conservatrice encore plus, qui est complètement biberonnée au trumpisme, donc, c'est odieux, c'est horrible, c'est le clivage central que les Républicains ont décidé d'actionner aujourd'hui, le corps des femmes, le ventre des femmes, et le corps de toutes les identités de tous les gens qui ne sont pas comme la base traditionnelle blanche et bourgeoise du Parti Républicain, quoi qu'on en dise. On a beaucoup dit que les Trumpistes, c'était que des pauvres gens qui gagnaient pas d'argent. La base du Trumpisme, c'est aussi énormément, énormément de conservateurs riches ou de classe moyenne supérieure. Et c'est quand même la réalité du Parti Républicain. Sur le glissement, moi, je suis fasciné de voir que l'extrême droite française, notamment sous l'impulsion de Zemmour pendant la dernière présidentielle, mais on voit bien que là, le Rassemblement national, qu'on appellera toujours le Front national parce qu'on se rappelle l'histoire du Front national, et essaye finalement de porter maintenant la discussion sur ces questions LGBT, de l'instrumentaliser. La sérophobie aussi, qui est on sent bien qu'il va pas tarder à arriver là. Demain, pourquoi pas les attaques sur les gens qui prennent la PrEP, la transidentité, le wokisme. Voilà, ce sont des mots-clés comme ça. Les gens dont on parle ne comprennent rien à ces réalités. Et ils s'en foutent, en fait, puisqu'ils veulent juste faire peur en balançant des hashtags comme ça et dire regardez, c'est ça qui nous menace, sans comprendre les vies qu'il y a derrière, sans comprendre de quoi on parle. Et donc moi, oui, je suis fasciné de voir que ça arrive aussi chez nous d'une certaine façon, avec les mêmes matrices, tout comme la Manif pour tous, finalement, c'était construite selon des matrices ouais. d'organisation, d'activisme américain, financée par, y compris parfois par l'extrême droite américaine. Donc c'est très inquiétant. Et raison de plus, pour finir sur une note plus positive, pour continuer à s'organiser, pour continuer à être en alerte, pour continuer à ne pas se laisser aller, pour ne pas considérer que les choses sont gagnées en réalité. Les choses sont pas gagnées. Les choses sont pas gagnées. Quand on voit la précarité dans laquelle vivent encore beaucoup de personnes trans, quand on voit la façon dont elles peuvent être traitées, quand on voit la lesbophobie crasse, quand on voit l'homophobie crasse, quand on voit... Ce n'est pas gagné. Et il faut repolitiser. Et là, j'emprunte, là encore, je cite encore Mathieu, puisque c'est Mathieu qui fait partie des gens qui défrichent tout ça. Il faut repolitiser ce qu'on fait. Il faut repolitiser nos vies. Il faut pas considérer que les choses sont gagnées. Il faut les ancrer dans des imaginaires qui nous permettent de vivre nos vies, en fait, de la meilleure des façons.
C'est une belle conclusion, hein, Mathieu.
Je m'emporte un peu, mais...
Ouais. Non, c'est une belle conclusion. On va conclure d'ailleurs en revenant sur le documentaire. Il est sorti le 19 avril 2023. Et alors, juste comment on peut le voir? Il faut être abonné à Mediapart.
Il faut être abonné à Mediapart. C'est des projets qui, quand même, nécessitent pas mal de moyens. Donc, on a fait ce documentaire et il faut être abonné à Mediapart. En ce moment, il y a une offre d'abonnement à 4,99€ pour le petit commerce. Donc, c'est comme si, en fait, vous voyez ce film sur une plateforme de stream pour 4,99€.
Exactement.
Voilà, c'est donc rien. Il faut le prendre comme ça. C'est,
il y a tout un dossier aussi.
Voilà, et moi, je cite souvent Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart, qui dit, en fait, quand c'est gratuit, il le dit probablement mieux que moi, mais quand c'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye. Nous, c'est pas gratuit, mais on sait qu'on est financé uniquement par nos abonnés. Et je pense que pour beaucoup de nos lecteurs, c'est un gage de confiance.
Totalement. Et alors, c'est le deuxième film produit par Mediapart, après le très, 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 très bon Media Crash de Valentino Berti. Est-ce que, comme pour ce dernier, il y aurait une tournée dans des cinémas où c'est prévu?
Ouais, ça commence à s'organiser, là. C'est-à-dire que les gens ont commencé à voir le documentaire. On est encore pas très calé là sur les dates. Tout ça se discute ces jours-ci. Mais bientôt, on va mettre, dans les prochains jours, sur Mediapart, des dates, petit à petit. Et on actualisera au fur et à mesure. Ça, partout en France, on entend parler de Marseille, de Montpellier, de Paris, de Saint-Denis, de plein d'endroits. Donc, restez en ligne sur Mediapart. On mettra ça dans l'espace blog de Mediapart, donc dans l'espace club, c'est-à-dire l'espace gratuit. Et les gens pourront aller voir le film comme ça.
Oui, moi, j'ai eu la chance de le voir justement en salle de cinéma sur un grand écran. Et c'est vraiment encore plus impliquant qu'à la télé, même si ça reste un film très fort. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci
beaucoup, à bientôt.
Au revoir.